Et les bords, minuit.
De l'eau sur Mars.
De l'eau sur Mars, sur Et les bords, la nuit à partir de minuit, le secret.
Sur Et les bords.
Ma future épouse était une comptable de 32 ans, accro à l'héroïne. On s'est mariés pour que je puisse rester dans le pays, puisqu'on prenait du bon temps quand on planait ensemble. Ma rencontre avec Suzanne a marqué le moment où l'usage de drogue a cessé d'être le fruit sain de ma jeunesse et de ma témérité, pour devenir la seule chose qui comptait à mes yeux. Ce vieux fatalisme des Irlandais alcoolos, qui m'accompagnait depuis toujours, a refait surface. Planer et prendre du bon temps ont cessé de suffire. J'avais besoin de monter plus haut. J'avais besoin de sentir mon cœur cogner si fort que j'avais l'impression qu'il allait faire exploser ma poitrine. J'avais besoin de sentir les palpitations, de voir flou, de voir double. J'avais besoin de savoir que la mort était là, dans la pièce, que j'étais plus rapide, plus jeune et plus futée qu'elle. Au début, on se baladait dans sa Mercedes bleu pâle des années 80. Capote baissée, punk rock à fond sur le lecteur de cassette, et on s'arrêtait pour se défoncer. On avait toujours assez de drogue. Héroïne, crack, méthamphétamine. Au réveil, on se droguait. On se droguait jusqu'au moment où on perdait connaissance. Et il y avait toujours de l'argent. Celui que je gagnais en écrivant des musiques de clips, et celui qu'elle avait économisé grâce à ses emplois de comptable. Il semblait qu'il ne s'épuiserait jamais. Et avec ses dollars, Suzanne avait acheté quelqu'un d'aussi obsédé qu'elle par l'idée de la destruction totale. Ce n'était pas l'amour, mais on était implicitement d'accord sur la perspective de mourir ensemble. La cérémonie a été aussi brève et sommaire qu'on peut l'imaginer. La maison était délabrée et mal éclairée. On a signé les papiers défoncés et nerveux. Puis, comme on n'avait pas d'amis, la vieille femme a fait descendre sa fille, ou sa petite fille, qui a tenu lieu de témoin. Elle avait environ 16 ans et pas la moindre envie de s'éloigner de son émission de télé. Elle nous a regardés sans un mot, en mâchant du chewing-gum, et on lui a adressé des larges sourires hébétés. Ça n'a pris que 10 minutes. C'était la deuxième fois que je me mariais, alors que j'étais si camée que je ne savais même pas ce que je faisais. La première fois, ça s'était passé en vitesse, à Vegas, avec une blonde vindicative, déchirée à l'alcool et à la meth. Et cette fois, 2 ans plus tard, le cerveau embrumé par l'héros et la tête légère à cause du crack, j'ai chanté la marche nuptiale de Wagner pendant qu'on sortait en chancelant pour rejoindre la voiture de Suzanne.
J'ai tambouriné, tambouriné au seuil de sa bonté. Judas m'a dormi et j'ai pris les verres anglais.
parmi nous. Seulement laisser tes avances, sommes nous la sécheresse, sommes nous la vaillance, ou le dernier coquelicot. Redis-moi ton nom, dis-moi en face que tout s'efface. Sommes-nous la noblesse, sommes-nous les autres, sommes-nous le souvenir. J'ai commandé, décommandé de mes yeux la prunelle, balancer les jumelles pour ne garder que le flou. Seulement laisser les passions immortelles, seulement laisser nos offenses. Sommes-nous la sécheresse, sommes-nous la romance, sommes-nous la noblesse, sommes-nous les autres, sommes-nous le souvenir,
personne à défier, personne à déplaire, et ma colère. Ma colère. Neige. Plus rien vu soudain. Plus rien entendu. Plus rien à confier à mes nerfs. Là, tu brises tout entière. L'as-tu décimé? Décimé. Tu accaparais ce peu que j'avais. J'avais sauvé ma colère.
Il savait maintenant que l'argent était une chose que l'on ne possédait pas toujours, qu'il fallait l'acquérir de quelque façon que ce fût. Il avait à présent conscience d'avoir été habitué à considérer comme naturelle l'atmosphère de bien-être dans laquelle il avait vécu, alors qu'à droite et à gauche de son existence béaient des abîmes auxquels son regard n'avait jamais fait attention. Il remarquait brusquement qu'il y avait des professions et des situations diverses, que sa vie était bordée de mystères faciles à constater, et que, pourtant, il les avait toujours ignorés. Edgar, en cette heure-là, apprit beaucoup. Maintenant qu'il était livré à lui-même dans cet étroit compartiment, aux fenêtres ouvertes sur l'horizon, ses yeux commençaient à voir, et tout doucement, au milieu de son obscure anxiété, quelque chose commença à s'épanouir, qui n'était pas encore du bonheur, mais qui était déjà un sentiment d'admiration devant l'aspect multiple de la vie. Il s'était enfui par peur et par lâcheté. Il le sentait à chaque instant. Mais, malgré tout, c'était la première fois qu'il agissait de son propre mouvement. C'était la première fois qu'il prenait contact avec cette réalité à côté de laquelle, jusqu'ici, il passait indifférent. Et peut-être était-il lui-même devenu un mystère pour sa mère et pour son père, tout comme l'univers l'avait été jusqu'alors pour lui. Il regardait par la fenêtre avec des yeux neufs, et il lui semblait que le voile qui jusqu'ici lui cachait les choses venait de tomber, et que celles-ci lui montraient ce qu'elles étaient, leur âme, le nerf secret de leur activité. Les maisons volaient devant lui, comme emportées par le vent, et il pensait sans le vouloir aux hommes qui y habitaient, se demandant s'ils étaient riches ou pauvres, heureux ou malheureux, s'ils avaient comme lui le désir de tout connaître, et s'il y avait des enfants qui eux aussi n'avaient fait jusqu'à présent que jouer avec les choses. Les gardes-barrières qui se tenaient le long de la voie avec leurs drapeaux déployés ne lui paraissaient plus comme auparavant des mannequins, des poupées sans initiative, des jouets sans vie. Il comprenait que c'était là leur destin et leur façon de lutter pour l'existence. Les roues roulaient toujours plus vite. Maintenant, les courbes serpentines de la voie conduisaient le train vers le fond de la vallée. Les montagnes s'éloignaient et disparaissaient de plus en plus. on avait atteint la plaine. Une fois encore, il regarda dans leur direction. Déjà là-bas, elles étaient bleues et semblables à des ombres. Subitement, il lui sembla que dans ces lointains nébuleux, où elles se dissolvaient lentement, était restée son enfance.
Même une vie
de tordue,
on fait ce qu'on peut,
sa vie
pour une mort
belle,
une mort
sans douleur,
une mort
sereine,
une mort
à son aise,
jusqu'à ce que mort
s'en suive
et que de vie
à trépas
on oublie
la jeunesse
pour l'amour.
De l'eau sur Mars, sur Elébor.
see the wonder in your scene. Makes infinite sense to me when I'm with you.
C'était un dimanche. La cloche fêlée de l'église battait le rappel des fidèles. Comme d'habitude, ma mère et mes deux sœurs, parmi les premières à se rendre à l'office, devaient déjà avoir pris place sur le banc du deuxième rang. Selon maman, plus près eût été un péché d'orgueil, plus loin, un péché d'insoumission, et moins loin de l'allée centrale, la sournoise manifestation d'une volonté de s'éclipser, sitôt la célébration achevée. Mon père, comme d'ordinaire, les rejoindrait plus tard, attend toutefois pour ne pas louper le début. Quant à moi, eh bien, je n'irai pas. Je n'y allais plus depuis quelques mois. Un dimanche de février, tandis que Dudley Clark certifiait que l'amour de Dieu passait par l'amour de son prochain, au lieu de faire semblant d'écouter son sermon et en réprimant l'envie de dormir que le ton monocorde du pasteur propageait dans tout mon être, je m'étais pris à observer les visages des paroissiens qui m'entouraient. L'exercice s'était révélé aussi amusant que déroutant. Si bon nombre d'entre eux faisaient, à mon instar, de louables efforts pour ne pas sombrer dans les bras de Morphée, certains ne semblaient pas seulement recueillir la parole du pasteur, ni même la boire, mais la manger, la savourer longuement, sans saturer les papilles, avant de l'avaler avec volupté. Mais ce qui fit virer le simple divertissement en consternation, c'est l'identité des personnes qui manifestaient un tel zèle. Car enfin, voir Marge Farber et Jenny Campbell se gaver le dimanche de préceptes qu'elles s'employaient la semaine durant à bafouer allègrement, ou le vieux Ben Lawson marmonnait chaque mot du sermon de Dudley, lui dont les lèvres ne s'ouvraient généralement que pour proférer des sentences de haine à l'encontre de ceux qui lui déplaisaient ou ne pensaient pas comme lui, ou encore, à ses côtés, Phyllis, son épouse, figée dans une attitude proche de l'extase, avec ses gros yeux exorbités et sa face de plâtre fissurée de partout, les mains jointes sur son estomac monstrueux, agneau bêlant aujourd'hui et demain, harpie vociférante. Oui, contempler ce spectacle risible me fit, ce jour-là, l'effet d'un électrochoc. D'un coup, sans crier gare, avec la violence d'une pelletée de cailloux lancée dans un entonnoir en plastique, tous ces foutus salopards qui s'envoyaient les paroles de l'Évangile comme un laxatif pour évacuer leurs humeurs perfides, le pasteur Clark qui, bien souvent, partageait leurs idées, tous les autres ou presque qui, comme moi, indifférents à ce qui pouvait se raconter là, se contentaient de faire acte de présence, cette somme de simulacres déboula dans mon cerveau avec un bruit de tonnerre et des éclairs aveuglants et me fit passer pour de bon l'envie d'en rire. Ce ne fut qu'un peu plus tard, dans l'après-midi, quand le vacarme eut cessé, alors que j'étais assis sur le tronc rugueux d'un gros chêne amené là le jour de crue et envasé depuis parmi les joncs de la rive, que je compris ce qui, dès lors, est devenu l'une des seules vérités que je tienne pour acquise. Dieu est partout, dans le tronc d'arbre sur lequel tu es assis, dans les joncs qui te caressent les mollets, dans le plongeon d'une grenouille ou le passage d'une libellule sous ton nez. dans le feuillage qui se balance et fait alterner l'ombre et la lumière sur ton visage, dans le Mississippi qui glisse sans bruit sous tes yeux, bref, partout. Mais sûrement pas au temple durant l'office du dimanche matin. Ma décision était prise, je n'irai plus. Extrait du roman de Lionel Salin, Le retour de Jim Lamar.
Break down the door and you stop and stare, man, and you feel like
le professeur de maths traçait au tableau des chiffres et des symboles, et par-dessus le crissement de la craie, il expliquait une formule ou une méthode ou un théorème, quelque chose qui devait leur permettre de résoudre l'équation. Fabien se sentait vide. Il entendait la voix du professeur, il suivait des yeux l'allongement des lignes de craie sur le tableau noir, mais rien n'avait de sens. Il croyait voir une scène dans un film étranger sans sous-titres. Son voisin commençait déjà à noter des calculs, toute la classe paraissait avoir compris. Lui seul restait démuni, paralysé devant l'énigme. Pauvre petit crétin, inapte, impuissant, incapable. Fabien se rappelait le jour terrible et merveilleux où il avait résisté au coup. C'était son seul triomphe, sa seule aventure digne d'un héros de bande dessinée. Mais il avait aussi gardé de cette scène la tentation subtile de l'imbécilité, du cocon protecteur de bêtises géniardes qu'aucun coup ne pouvait percer. Il rêvait parfois de se pelotonner dans ce duvet caressant, de laisser le monde le traiter d'idiot, de glisser dans cette absence, de disparaître derrière un corps sans avenir. Mais pendant les cours de maths, il se demandait parfois s'il n'avait pas poussé trop loin ce jeu dangereux. Il était tellement lent dans sa tête, il lui fallait relire les énoncés 10 fois, 20 fois avant d'en comprendre le sens. Peut-être avait-il réellement arrêté ce jour-là une des roues de son cerveau qui n'avait jamais redémarré. Comme le professeur se tournait vers eux, Fabien décapuchonna son stylo-plume et l'approcha de son cahier. Il n'avait rien à écrire. Il fit semblant de réfléchir, puis, comme M. Dubreuil commençait à passer dans les rangs, il se mit à recopier l'équation le plus lentement possible. Quand il eut terminé, il souligna l'énoncé en rouge. Mais du coup, le blanc de la page lui sembla aveuglant. On voyait au premier coup d'œil qu'il n'avait rien fait. Alors, sous l'énoncé souligné, il recopia à nouveau l'équation. Puis, à la ligne d'en dessous, il la copia une nouvelle fois, et puis encore une fois. Au bout de quelques lignes, sa copie devint plus esthétique, son tracé plus arrondi. De petites arabesques ornaient les 2 et les 5, les 8 tournoyaient, les barres des 7 prenaient leur envol. Au bas de la page, ces équations ressemblaient à des calligraphies persanes. Extrait du roman de Vanessa Go, Une famille nucléaire. De l'eau sur Mars, sur Elebor.
Dans ma chambre, vous croqueriez une pomme petite, vous tremperiez dans le thé des langues de chat en silence. Et après le débat, comme dit Casanova, fronçant les sourcils, vous liriez, c'est bizarre. Dans ma chambre, vous croqueriez une pomme petite, vous tremperiez dans le thé les langues de chat en silence. Et après le débat, comme dit Casanova, fronçant les sourcils, vous diriez ça a été. Vous n'auriez qu'un mot à dire dans la rue, la journée. Pour vous servir d'acolyte, j'aurais mon parapluie, qui sait. Dans ma chambre, vous croqueriez une pomme petite, vous tremperiez dans le thé des langues de chat en silence. Et après le débat, comme dit Casanova, fronçant les sourcils, vous diriez, c'est bizarre. Car vous n'auriez qu'un mot à dire dans la rue, la journée. Si seulement qu'il vous en disait. Thank you.
she's known our name forever, but we never knew its game. Till later, the higher we are, the further we
the fool.
Loving you.
doesn't matter. I will find my way to the gods up above.
Sad.